Cet été, le Festival de Cannes couronnait pour la seconde fois seulement de son existence une femme. Palme d'or, Julia Ducournau pour son film Titane. Seulement deux palmes d'or pour deux femmes réalisatrices en 74 ans. Symptôme d'un milieu qui a très longtemps été dominé par les hommes. Mais des grandes femmes réalisatrices dans l'histoire du cinéma, il en existe. Et un documentaire met en lumière la carrière de l'une d'entre elles. Elle s'appelle Ida Lupino dans le Hollywood des années 40 et 50. Cette femme va être à la tête de grands films hollywoodiens et de séries télé mythiques telles que La Quatrième Dimension ou Ma Sorcière Bien-Aimée. Le documentaire s'appelle Ida Lupino, Gentleman and Miss Lupino. Il sera diffusé samedi soir à 22h10 sur OCS Géant. Bonjour Julia Kupperberg.
Bonjour.
Bonjour Clara Kupperberg.
Bonjour.
Comme votre nom l'indique, vous aimez travailler en famille. Vous êtes sœur.
Absolument.
Oui, logiquement oui.
Votre documentaire nous emmène à la rencontre de l'un des plus grands réalisateurs ou réalisatrices d'Hollywood, qui était en fait une réalisatrice, j'y arrive. Elle s'appelait Ida Lupino. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots? Qui veut y aller?
L'aînée, vas-y.
Écoutez, Ida Lupino, en fait, on la connaît parce que c'était une actrice. Donc, elle donnait la réplique à Humphrey Bogart. Elle avait fait une grande carrière à Hollywood depuis ses 13 ans. Mmh. Et puis, en fait, elle s'ennuyait sur les plateaux. Elle était assez rebelle, donc en fait, elle était tout le temps suspendue. Elle était punie parce qu'elle refusait de faire certains rôles. Et un jour, elle a dit « je vais passer à la réalisation ». Et donc, en 49, elle a fait son premier film. Et là, elle a enchaîné des films incroyables, hyper modernes pour l'époque. Elle traitait de sujets dont personne ne voulait toucher. Et elle a fait une carrière pendant plus d'une décennie toute seule.
Pas n'importe quel sujet, lesquels par exemple ?
Le viol, déjà pour commencer, mais le viol d'un point de vue, le point de vue de la victime, ce qui était complètement nouveau, mais ça n'existe pas d'ailleurs. Mais même aujourd'hui, c'est rare de trouver des films comme ça dans le milieu, dans le cinéma hollywoodien.
On va y revenir évidemment, l'avortement également. Déjà, une question en préliminaire, comment se fait-il que j'ai découvert ce nom avec ce documentaire ? Et je ne suis pas le dernier, je pense qu'il y a plein de gens qui ignoraient totalement l'existence d'Ida Lupino.
C'est une bonne question. En fait, l'histoire du cinéma a été écrite par les vainqueurs. Et les vainqueurs dans les années 40, c'était des hommes.
Attendez, si vous dites les vainqueurs, ça veut dire qu'il y avait, deux camps l'un contre l'autre ?
Il y avait deux camps parce qu'avant 1930, il y avait plus de femmes réalisatrices que d'hommes réalisateurs. Elles étaient mieux payées que les hommes. Et en fait, Hollywood a été inventé par des femmes. Et donc les hommes, après la dépression, au moment de la dépression en 1929 aux États-Unis, les hommes de l'Est ont perdu leur travail, sont arrivés à l'Ouest, se sont dit « Ah tiens, il y a pas mal de femmes qui commencent à faire beaucoup d'argent avec ces films ». Ils sont arrivés et puis ils les ont poussés gentiment vers la sortie et elles se sont retrouvées à les former.
Ce qui était un divertissement est devenu une industrie, si je veux résumer. Vous avez regardé combien de films, combien de téléfilms pour préparer ce doc ?
Une bonne cinquantaine.
Alors, vous interrogez de nombreux intervenants dans ce documentaire, des spécialistes de l'histoire du cinéma ou d'Hollywood, mais on retrouve également les mots d'Ida Lupino, puisque vous avez enregistré en voix off des passages de sa biographie.
Hollywood a la réputation d'être l'une des villes les plus cosmopolites qui a su attirer des hommes créatifs des quatre coins du monde. L'utilisation du mot « homme » plutôt que « personne » est délibérée. Car même si Hollywood peut être fière de cet apport culturel masculin, je ne pense pas qu'elle ait montré la même attitude progressiste envers les femmes, du moins jusqu'aux années 60 et 70. Il y a régné pendant toutes les années 40 et 50 un système absolu et totalement cadenassé, dont le but premier était pour moi d'exclure les femmes.
Julia Kupperberg, est-ce que c'est la toute première femme réalisatrice ou est-ce qu'il y en a eu d'autres à cette époque ou alors avant elle ?
Avant elle, il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres avant 1930 et elle, c'est la seule qui a survécu dans les années 40. Alors il y en avait une autre, pardon, Dorothy Arzner qu'on oublie aussi. On est en train de travailler dessus justement sur elle, mais elles étaient deux en fait.
Je vais vous dire franchement, c'est pas que je l'oublie, c'est que je viens d'apprendre à l'instant son existence. Un documentaire que je vous pose la question tout de suite, qui sortira quand, qui est prévu pour quand ?
Qui est prévu pour samedi prochain sur OCS Géant.
Non, le documentaire sur la nouvelle personne dont vous venez de parler.
Ah, le suivant de Dorothy Arzner, l'année prochaine, pardon.
L'année prochaine.
L'année prochaine.
Évidemment, je savais
pareil,
que c'était samedi sur OCS, votre doc.
Sur OCS.
Avant de diriger des comédiens, Ida Lupino était actrice, elle continue à l'être en parallèle de sa carrière de réalisatrice. Elle se sentait bien dans ce rôle ou pas trop, ou c'est pour ça qu'elle a franchi le pas de l'autre côté de la caméra ?
Non, elle s'ennuyait sur les plateaux, en plus elle était un peu considérée comme la sous-Bette Davis à l'époque. Et puis, les actrices à cette époque-là, il ne faut pas oublier qu'elles étaient le produit d'un studio. Donc, elles étaient obligées d'accepter les rôles. Elles n'avaient pas le choix. Elles appartenaient au studio, en fait. Et donc, elle refusait régulièrement les rôles qu'on lui proposait parce que ça ne lui plaisait pas. Elle trouvait que c'était des rôles idiots, etc. Et donc, elle se retrouvait punie. Elle se retrouvait suspendue, comme on disait. Donc, pas payée, mise au placard. Et donc, elle en a vraiment eu assez.
Clara Kupperberg, on n'a pas fait la question préliminaire qu'il faut toujours poser, c'est expliciter le titre de votre doc, Gentleman et Miss Lupino, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire qu'en fait, elle était la seule femme au syndicat des réalisateurs, donc la Director Guild, dans ces années 50. Elle était la seule femme face à 1300 hommes réalisateurs. Donc en fait, à chaque fois qu'une session s'ouvrait, le présentateur disait Gentleman and Miss Lupino, parce qu'elle était la seule femme réalisatrice à cette époque.
Clara Kupperberg, il y avait une femme réalisatrice à Hollywood. Les thématiques des films changent avec cette femme-là. Le tout premier film d'Ida Lupino, Not Wanted, raconte l'histoire d'une femme qui abandonne son bébé.
Well, tell me, my dear, have you decided whether you want to keep your baby after it's born?
I don't know.
Voilà, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire de son bébé après qu'il soit né. C'est le seul extrait qu'on a passé comme tel. Il y a beaucoup d'extraits, mais ils sont sous-titrés, donc en radio, évidemment, ça ne fonctionne pas. Comment ce film a-t-il été reçu?
Bah bien, il a été très bien. C'est ça qu'il faut savoir avec Ida Lupino, c'est qu'elle faisait des films dans le système indépendant, donc pas dans les studios. Mmh. C'est pour ça qu'elle pouvait traiter des sujets comme ça, d'ailleurs, dont les studios n'avaient absolument rien à faire. Et ces films faisaient énormément d'entrées, énormément d'argent. Et c'est bien ce qu'on n'a pas compris quand on a fait le documentaire, c'est pourquoi quand elle a arrêté en début des années 50, aucun studio n'est venu la chercher. Aucun studio n'est venu la chercher. Et ça, c'est une question que personne ne peut, à laquelle personne ne peut vraiment répondre. Est-ce que c'était une femme? Est-ce que c'était parce qu'elle avait traité des sujets trop osés? Le fait que ce soit une femme est peut-être une piste à envisager. Peut-être.
Vous voulez dire quelque chose, Clara?
Oui, je voulais dire qu'en plus, on est en plein code de censure à cette époque. Faut pas l'oublier, il y a le code Hays, qui est un code qui censure le cinéma. On n'a même pas le droit de dire le mot viol à l'écran. C'est-à-dire qu'elle fait un film sur le viol, mais on n'a même pas le droit de dire le mot viol. Non.
Ce film s'appelle Outrage, il aborde cette question. On est en 1950, c'était une bombe dans l'Amérique puritaine de l'époque. Même question, il a été reçu comment ce film?
Bah, pareil, je vais dire la même chose. En fait, il a été bien reçu, c'est-à-dire qu'il a bien marché, il a fait des entrées. Et en même temps, c'était un ovni dans le cinéma américain, parce que c'est la première fois qu'on voit le viol du point de vue de la victime et qu'on voit surtout le choc post-traumatique. C'est quelque chose, c'est un mot qu'on ne connaissait même pas en fait à l'époque. Et on suit cette femme, cette jeune femme qui se fait violer. L'attaque n'est jamais montrée, n'est jamais sexualisée, parce que le viol quand même dans le cinéma américain est souvent sexualisé.
C'est un choix d'Ida Lupino ou c'était une obligation de la censure?
Non, c'est un choix d'Ida Lupino. Elle aurait pu, comme dans beaucoup de films, le détourner, le sexualiser, en faire quelque chose de plus érotique. Elle choisit vraiment délibérément de se placer du point de vue de la femme, du point de vue de la victime.
Oui, de rester pendant tout le film sur la victime, sur ses chocs post-traumatiques, ce qui était complètement nouveau.
Et le film sort alors que les dirigeants du cinéma, il n'y a que des hommes, vous l'avez dit. Parmi eux, il y avait Howard Hughes, l'un des plus grands prédateurs sexuels d'Hollywood de l'époque. Est-ce que ceci n'explique pas cela, la disparition et le fait qu'elle ne trouve plus de contrat ensuite et qu'aucun studio ne s'intéresse à elle?
Oui, c'est une explication. C'est sûr qu'ils ont voulu. Ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, comme on dit. Ils ont voulu, ils produisaient, ils ont voulu aussi distribuer. Or, c'est pas possible. On peut pas produire et distribuer. C'est un vrai métier de distribuer. Et ils ont viré Howard Hughes, qui avait la RKO, qui était le plus grand magnat à Hollywood. Et de là, évidemment, leur société s'est écroulée et ils ont fait faillite. Elle était contre elle. Elle voulait rester avec Howard Hughes.
Et puis, il y avait aussi des hommes sur le plateau dirigé par Ida Lupino. Comment ça se passait au quotidien? On en parle. Julia Kupperberg et Clara Kupperberg. Elles signent Gentleman et Miss Lupino. Culture Média continue.
Philippe Blondel.
En compagnie des sœurs, c'est pas les sœurs Labeck, Clara Kupperberg et Julia Kupperberg, vous êtes réalisatrices de documentaires. Vous en avez déjà réalisé combien?
On est au 49 là.
49, Julia tient les comptes.
Voilà. Celui-ci qui va passer sur OCS, c'est Gentleman et Miss Lupino. Ida Lupino, c'était une grande réalisatrice des années 40-50 à Hollywood, totalement méconnue. Il y avait des hommes qui dirigeaient Hollywood, il y a des producteurs, mais il y a aussi des hommes qu'Ida Lupino doit diriger sur son plateau. Elle avait une technique pour se faire respecter sur les tournages. On l'écoute.
Garder une approche féminine est vitale. Les hommes détestent les femmes autoritaires. Vous n'ordonnez pas à un homme, vous lui suggérez. Chérie, maman a un problème. J'adorerais que tu fasses cela. Tu crois que tu pourrais? Je sais que ça a l'air fou, mais dès que je leur disais « Est-ce que tu pourrais le faire pour maman ?» ils le faisaient. Souvent, je devais prétendre en savoir moins que le caméraman pour obtenir sa coopération. J'essayais toujours de ne pas exploser. Une femme ne peut pas se permettre, en fait, car ils attendent ça. Tant que vous ne vous énervez pas, l'équipe vous suit. J'aurais vraiment aimé voir plus de femmes réalisatrices et productrices.
Alors évidemment, cette voix est extraite de l'autobiographie d'Ida Lupino. un mot de commentaire sur ce texte ?
Génialissime, non ?
Bah, elle avait tout compris, j'ai envie de dire. Non, elle avait compris qu'une femme à l'époque, bon, ça n'a pas beaucoup changé, je vais dire, mais soit elle est sexualisée, soit en fait, elle a besoin, effectivement, elle avait trouvé ce truc génial de se faire appeler maman.
Alors, vous êtes deux réalisatrices. Est-ce que parfois vous faites semblant de prétendre en savoir moins que votre caméraman pour obtenir sa coopération ? Après avoir dit que c'était génial ce qu'elle vient de dire, j'aimerais bien avoir votre réponse, Julia Kupperberg.
En toute honnêteté, oui. Ça nous est déjà arrivé. Bien sûr, oui. Avec des caméramans hommes, ça a été compliqué. Au début, ça a été compliqué dans notre carrière. De toute façon, le fait qu'on soit femme, productrice, réalisatrice, ça a été compliqué jeune, parce qu'on a commencé jeune. Donc oui, ça nous est arrivé. Et maintenant, on décide de les appeler maman. On va essayer de tenter, on va voir si ça marche.
Non, de s'appeler maman.
De s'appeler maman.
De s'auto-appeler maman.
Ça, c'est ça, pas un caméraman maman. Non, je ne sais pas qu'il va se passer.
Vous allez au-devant d'un blocage. Est-ce que la situation a évolué vraiment ou a évolué à la marge ou a évolué en surface de ce que vous lisez des 40-50 et de ce que vous vivez au quotidien ?
J'ai envie de dire que ça a un petit peu évolué, mais pas tant que ça.
Il y a une prise de conscience qui a été faite.
Oui, voilà, c'est déjà ça.
On ne peut pas la nier quand même.
Oui. Ça bouge un peu.
Alors, dans les années 50 et 60, Ida Lupino va faire de la réalisation pour la télévision. Pourquoi elle passe à la télévision ? Parce que le cinéma ne veut plus d'elle et qu'elle ne trouve plus de débouchés ?
Mais en fait, je vais vous dire, c'est comme aujourd'hui. La télévision donne plus d'espace aux femmes réalisatrices. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme ça, c'est vrai, depuis quelques années. Et en fait, c'était pareil dans les années 40, parce que ça fait moins d'argent, parce que c'est dans des systèmes qui sont moins des grosses machines, c'est moins universel, la télévision. Et c'est plus des niches, c'est plus niché. Et donc, on a toujours mis les femmes à la télé. On les a toujours classées dans le monde de la télévision, toujours.
Il y a quelque chose que j'ai pas compris, c'est puisqu'elle était sa propre productrice, pourquoi arrête-t-elle de produire des films ?
En fait, elle arrête parce qu'elle fait faillite. Elle avait créé sa propre société avec
son
mari.
Pourquoi elle ne remonte pas une, on est aux États-Unis ?
Et c'est ça, on se dit pourquoi elle ne remonte pas une société et en fait, elle se retrouve ruinée en même temps. Donc,
Je vais poser ma question différemment. Ouais. Si ses films marchent bien, comme vous venez de me le dire, pourquoi fait-elle faillite ? Ouais. La faillite, c'est quand les films ne marchent pas.
Non, elle fait faillite parce qu'en fait, ils ont les yeux plus gros que le ventre, ils décident de faire la distribution de leurs films. Est-ce qu'elle était opposée à ça ?
Et c'est à ce moment-là que, voilà, l'étape qui m'avait manqué. Merci beaucoup. Donc, Ida Lupino arrive à la télévision. Elle va réaliser des séries, pas n'importe lesquelles, des séries mythiques ici, même connues en France. La quatrième dimension, Alfred Hitchcock présente. Oui. Ou encore, Ma sorcière bien-aimée, dont on voit un extrait dans votre documentaire.
Oui.
Mais c'est difficile de voir les images. Non. Quelle touche elle apporte à Ma sorcière bien-aimée, si tant est qu'elle apporte sa touche à elle ?
Elle apporte sa touche parce qu'elle garde les mêmes thèmes, enfin, même à la télé, les thèmes de femmes, de combat de femmes. Là, dans cet épisode, en l'occurrence, c'est Samantha qui, son mari, veut qu'elle arrête d'utiliser ses pouvoirs. Parce que ça le divérilise, hein, soyons
évidemment.
Voilà. Mais elle continue à le faire quand même, donc elle tient tête à son mari, à Jean-Pierre. Donc elle gardait quand même ses thèmes de prédilection.
Est-ce qu'elle va obtenir la reconnaissance qu'elle mérite pendant ces années ? Est-ce qu'on va beaucoup l'appeler ? Est-ce que les télévisions vont l'appeler ?
Oui, elle tourne énormément. C'est-à-dire que ça fait d'elle la femme la plus prolifique à l'époque. Elle tourne des centaines d'épisodes de séries télévisées. Donc, et dans tous les genres, hein, de Ma sorcière bien-aimée, à des westerns, à des thrillers, à Alfred Hitchcock présente, à le Twilight Zone. Enfin vraiment, elle touche à tous les genres. Donc, elle devient une immense réalisatrice de séries télé.
Est-ce qu'il y a des cinéastes aujourd'hui qui se revendiquent d'elle ?
Ah oui, Scorsese. Hein.
Scorsese
le dit, en fait, ouais. Lui-même. Hein. On a vu des interviews de Scorsese qui disaient que, justement, elle l'avait inspiré sur tout ce qui était décor extérieur, décor au naturel, des histoires humaines, comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ida Lupino, et c'est important, ne se revendiquait pas comme féministe. En fait, le féminisme n'existait même pas dans les années 40.
Le mot existait déjà à l'époque ou pas du tout ? Il arrive dans les années 60.
Il arrive plus tard. Donc en fait, on le regarde aujourd'hui avec nos yeux et on dit ces films sont féministes. Mais elle n'était pas du tout dans un combat militant ni engagé. Elle voulait vraiment raconter des histoires de femmes, des histoires d'humaines. Et c'est ça que Scorsese il le dit lui-même, a été touché. Il a été touché par ça chez elle.
Parfois, ça va un petit peu loin dans votre documentaire. À un moment donné, vous dites que c'est presque une pionnière de la nouvelle vague.
Oui, bah oui, parce que.
À quel titre ? Parce que je me suis demandé ce qu'il y avait entre les deux.
Elle insuffle en fait un style de montage, de cinéma réalité. Elle prend des acteurs qui ne sont pas des acteurs professionnels. Elle tourne en extérieur. Finalement, on n'est qu'en 1950, même pas. On est fin 49, début 50. La nouvelle vague, le nouvel Hollywood arrive bien plus tard quand même. Donc elle insuffle cette énergie.
Alors elle montre le monde réel. On voit des scènes, par exemple, dans la rue, alors qu'à l'époque, on refaisait tout en studio. Toutes les rues étaient fictives, pas seulement dans les westerns, mais même parfois, on était dans les années 50 et on refaisait une rue des années 50 alors qu'il aurait suffi de se déplacer de 400 mètres et d'aller le tourner là. Elle tourne ça. Mais en revanche, par exemple, dans la scène de cette jeune femme qui donne naissance à un bébé, tout est fictif. On a l'impression que c'est la séquence de Roswell avec le vrai faux extraterrestre qui naît. C'est totalement irréel, c'est même flouté cette image-là. C'est un choix d'elle ou c'est un choix de la censure? Et comment elle filmait? Parce que ça, c'est très moderne.
Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est vraiment un choix d'elle. Il faut se rappeler qu'on est dans les années 50, que les femmes sont poussées à se marier, à avoir une famille. Et qu'est-ce que fait Ida Lupino à ce moment-là? Elle montre l'accouchement comme un truc horrible, comme vraiment à l'accouche d'un alien presque.
Un cauchemar.
C'est un cauchemar. Hein. Mmh. Et du coup, pour l'audience, les femmes, les spectatrices à ce moment-là, c'est aussi cathartique parce que l'accouchement, c'est pas non plus quelque chose de très joyeux. Et elle montre justement un nouveau point de vue. Et c'est ça, et c'est en ça qu'elle est féministe en fait pour nous. C'est juste ça, c'est parce qu'elle montre des choses que les hommes ont fantasmées et ont voulu fantasmer pour permettre aux femmes, pour obliger les femmes à rentrer dans des carcans qui étaient très conservateurs et puritains à l'époque.
On a commencé comme ça cet entretien avec cette citation. Julia Ducournau, réalisatrice française qui était seulement deuxième femme à obtenir la Palme d'Or après Jane Campion en 75 ans d'existence du Festival de Cannes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette situation change et que ce ne soit pas exceptionnel et que ce ne soit pas une information que je donne ici dans Culture Média?
Parler d'elle, les réhabiliter, j'ai envie de dire.
Leur laisser faire des films.
Oui, les laisser faire des films.
C'était Audrey Diwan qui avait dit ça pour le Lion d'Or, quand elle avait reçu le Lion d'Or.
Dites.
Laissez-nous faire des femmes et puis on gagnera des prix.
Des films,
pardon.
Chacun son lapsus.
Décidément. Laissez-nous faire des films et on gagnera des prix.
Julia Ducournau ira à Hollywood. Elle va représenter la France aux prochains Oscars. C'est une bonne nouvelle, la boucle est bouclée.
C'est formidable.
Vous l'avez vu le film ou pas encore?
Non, pas encore.
Non plus. Julia Cooperberg, Clara Cooperberg, merci beaucoup. Je rappelle le titre de ce doc. Il s'appelle Gentleman et Miss Lupino. Et ça passe dimanche sur OCS. Dimanche, j'ai perdu l'horaire.
Samedi, 22h10.
Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.